Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Un soulagement hier soir après 6 heures de prise d'otage dans l'Orne.
Le détenu qui retenait deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe a fini par se rendre. Nouvelle épreuve pour cet établissement. C'est là déjà qu'un détenu radicalisé avait poignardé deux membres du personnel en mars dernier. L'écologie au menu du deuxième discours de politique générale d'Édouard Philippe. Le Premier ministre s'exprimera devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Dans ce journal, l'insalubrité d'une école à Marseille. Des parents d'élèves bloquent un établissement pour que leurs enfants aient tout simplement accès aux toilettes. Et puis le foot, les Bleus se rassurent. Victoire 4-0 hier soir face à Andorre dans les éliminatoires de l'Euro 2020.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
22 degrés et du soleil cet après-midi à Thuir dans les Pyrénées-Orientales.
RTL Matin.
La prise d'otage a donc pris fin vers 23h30 hier soir à la prison de Condé-sur-Sarthe.
Les deux surveillants, un titulaire et une stagiaire, ont été libérés tour à tour. En tout début de soirée, un détenu dangereux a profité du service des repas pour les menacer avec une arme artisanale. Cet homme de 35 ans, condamné notamment pour le meurtre d'un co-détenu, en était au moins à sa sixième prise d'otage. Condé-sur-Sarthe, dans le département de l'Orne, c'est cet établissement où deux surveillants avaient été poignardés en mars dernier par un détenu radicalisé. L'épisode d'hier soir était suivi sur place par Emmanuel Guimarès. Il est délégué national de Force ouvrière pénitentiaire.
6h30 qu'on attendait ici pour la santé de nos deux collègues qui étaient retenus, 6h30 de crispation, 6h30 de silence aussi, parce que on était ici une centaine de collègues à s'être rassemblés et à attendre des nouvelles de l'intérieur, ce qui est très difficile. On suppose que ça a été encore plus difficile forcément pour eux. Bon, l'issue est heureuse, heureusement. Pour autant, ça pose des questions sur l'avenir. Après l'attentat terroriste du 5 mars dernier, où on avait déjà eu des grandes difficultés à faire entendre auprès de l'administration nos revendications. Aujourd'hui, on voit que pas beaucoup de choses n'ont changé. Et demain, eh ben, on va recommencer. Et aujourd'hui, il y a une volonté des collègues qui sont présents là de se remobiliser, de rebloquer l'établissement pour réexprimer cette colère, cette envie de faire bouger les choses pour notre sécurité. Des premiers ressentis que j'ai, il y a ce ras-le-bol manifeste qui fait qu'effectivement, il va se passer des choses.
Des propos recueillis pour RTL par Julien Caillard. Édouard Philippe va donc prononcer cet après-midi un nouveau discours de politique générale, le deuxième depuis son arrivée à Matignon. Renforcé par les résultats des européennes, le Premier ministre soumettra les derniers arbitrages à Emmanuel Macron au cours d'un déjeuner. L'écologie devrait tenir une place importante dans les nouvelles priorités du gouvernement. On attend aussi de savoir quel sera le calendrier de l'extension de la PMA à toutes les femmes.
Tiens, à ce sujet, RTL vous révèle un sondage ce matin.
6 Français sur 10 sont favorables à la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires ou en couple. Enquête de l'IFOP pour l'association des familles homoparentales. 8 jours après l'échec de la fusion avec Fiat, Renault va tenir aujourd'hui à Paris son Assemblée Générale annuelle. Ce sera la première, présidée par Jean-Dominique Senard. Les difficultés s'accumulent. L'affaire Ghosn, toujours en toile de fond, et des tensions de plus en plus fortes avec le japonais Nissan. Christophe Bourou, l'ex-patron de Michelin, a même songé à jeter l'éponge.
Éprouvé mais toujours debout en à peine 5 mois de présidence, Jean-Dominique Senard a vécu un véritable chemin de croix. Pourtant, tout commence par une lune de miel avec les Japonais. Seulement voilà, en avril dernier, le nouveau patron tente de présenter un projet de fusion sèchement retoqué par le partenaire nippon. Puis arrive l'épisode Fiat Chrysler. Là encore, Jean-Dominique Senard est en première ligne, d'abord encouragé à mettre le pied sur l'accélérateur par l'État français. L'État lui demande ensuite de freiner pour ne pas brusquer les Japonais. Dernière tension en date, vendredi, où Jean-Dominique Senard explique dans une lettre envoyée à Tokyo qu'il ne validera pas la future gouvernance de Nissan, qui risque de mettre un peu trop de côté les Français. La tension est à son comble, à tel point que le patron de Renault aurait voulu démissionner avant de recevoir publiquement le soutien du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'est donc dans cet état d'esprit que l'Assemblée Générale des Actionnaires s'ouvrira cet après-midi, la première sans Carlos Ghosn depuis 14 ans.
Merci Christophe Bourou.
À Marseille, il n'y a pas que les logements qui soient insalubres. Situation à peine croyable. Écoutez bien, dans une école du 13e arrondissement, il n'y a quasiment plus de sanitaires pour les élèves. Reportage à suivre juste après ça sur RTL.
Comme vous. RTL Matin.
Julien Cellier.
Et donc la suite de votre journal à 6h06 sur RTL. À Marseille, des parents d'élèves se mobilisent. Pourquoi ? Pour que leurs enfants puissent tout simplement aller aux toilettes lorsqu'ils sont à l'école.
L'école mal passée dans le 13e arrondissement, 280 élèves qui y sont scolarisés. Leurs parents bloquent ces derniers jours l'entrée pour dénoncer la vétusté et le manque d'entretien, Hugo Hamelin.
Absolument, parce que sur 22 toilettes, 13 sont hors d'usage.
Ils sont bouchés, ils ne fonctionnent plus, ils ont plus assez de pression.
Alors même les instits partagent leur WC, aux filles comme aux garçons d'ailleurs. Ismaël et Elodie sont toutes les deux déléguées de parents d'élèves.
Ils vont se retenir jusqu'à 4h30, puis après voilà, ils vont rentrer à la maison, ils vont avoir mal au ventre, ils vont être pas bien.
J'ai deux garçons, et dont un qui ne se retient pas du tout. C'est fréquent qu'on m'appelle pour venir le changer, etc. parce qu'il s'est fait dessus. Les enfants, ils ne peuvent pas être dans des conditions comme ça, c'est pas possible.
La ville de Marseille, qui gère 444 écoles, a promis d'envoyer un technicien jeudi, mais depuis janvier, plusieurs interventions ont déjà eu lieu. Alors Jamila, une autre maman, espère que cette fois on dépassera le simple stade des constatations.
Maintenant, nous on lâchera pas. On a du personnel qui vient, qui constate les dégâts, oui, il note sur un petit carnet tout propre, tout beau, mais au final rien n'est fait.
Sur les 280 élèves que compte l'établissement, précisons qu'il y a une classe Ulysse avec des écoliers en situation de handicap.
Hugo Hamelin, Marseille pour RTL.
Les militaires vont devoir jouer serré lors du prochain défilé du 14 juillet.
Oui, car cela arrive assez rarement. L'événement coïncide avec la dernière étape du Tour de France qui a lieu le même jour sur les Champs-Élysées. Le gouverneur militaire de Paris a dévoilé hier le dispositif. Chacun aura en fait un morceau de la chaussée, comme l'explique le général Bruno Le Ray.
Alors on passe de 27 mètres de largeur à 19 mètres de largeur disponible. C'est pas neutre, ça a obligé nos logisticiens et les grands manitous de l'organisation de ce genre de cérémonie à se faire quelques nœuds au cerveau pour s'adapter à ce dispositif, mais voilà, nous avons trouvé des solutions pour résoudre cette équation. Vous connaissez la capacité d'adaptation des militaires pour tenir compte des nouvelles contingences. Effectivement, la chaussée est réduite de 8 mètres et donc le défilé sera un petit peu plus resserré en largeur, mais gagnera un petit peu en profondeur.
Il n'y aura pas de problème pour les Charles Leclerc ?
Oh, il ne devrait pas y avoir de problème sur les Charles Leclerc. Je pense qu'ils veilleront à ne pas enrouler autour de leur chenille les dispositifs mis en place pour les cyclistes, qui ne défileront pas normalement en même temps. Donc je pense que nous avons pris toutes les mesures de précaution nécessaires.
Voilà, il y a de la place pour tout le monde à Paris. Le général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de la capitale, avec Pierre Julien pour RTL.
On passe au foot. Les joueurs de Didier Deschamps se sont repris hier soir.
Ils sont allés battre Andorre 4-0. Mbappé a ouvert la marque, équipe largement remaniée hein, après la défaite en Turquie. Ben Yedder et Zouma ont chacun inscrit leur premier but en sélection. Très belle reprise aussi de Florian Thauvin. Les Bleus reprennent la tête de leur groupe pour les qualifications de l'Euro 2020. À la différence de but, hein, juste devant la Turquie et l'Islande, les Turcs se sont inclinés 2-1 hier soir chez les Islandais.
C'était le journal de Jérôme Chapuis. Merci Jérôme, on vous retrouve tout à l'heure.
À 7h.
RTL.
Le mondial d'Olivia.
Ah, vous l'avez constaté depuis quelques jours, Olivia Le Ray a déserté nos studios des petits matins. Elle sillonne la France du mondial du foot féminin. Les Bleus, ES, on en parle maintenant à la fin. Elles sont ce soir de nouveau sur RTL puisqu'elles affrontent la Norvège. Coup d'envoi à 21h à Nice. C'est le deuxième match de leur mondial. Et cette fois-ci, c'est un vrai test après la mise en jambe plutôt facile. 4-0 face à la Corée du Sud. Ça, c'était vendredi dernier. On vous retrouve à Nice justement ce matin, Olivia. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réussi à trouver les Norvégiennes de Nice, pas mal.
Et oui, parce que figurez-vous que je vous ai dégoté le seul restaurant norvégien de la ville de Nice. Il se situe à quelques pas du Vieux-Port. Vraiment, là, je peux voir les bateaux et les mâts tanguer avec le vent. La gérante, elle s'appelle Nathalie. Donc, je vais essayer de rentrer pour voir si elle est là. Alors, bonjour Nathalie.
Bonjour.
C'est la radio RTL et je viens vous parler du match France-Norvège. Est-ce que vous serez au match déjà à l'Alliance Riviera ?
Et malheureusement non, je dois tenir la boutique, mais ma mère qui est norvégienne, elle y sera, avec toutes ses copines.
C'est-à-dire, elles ont prévu depuis très longtemps d'aller ce match. Quel âge est là votre maman ?
Ma mère, elle a 70 ans. Et elle va avec des copines entre 60, 65, 70 ans. Les retraités, là, c'est un groupe.
Les retraités norvégiennes au stade.
Voilà, elles sont une quarantaine. Et donc, avec les maris.
Bah oui, parce qu'il ne faut pas les oublier.
Et avec des drapeaux, elles seront dans un coin du stade.
Et vous, vous n'avez pas pu libérer, laisser les clés de la boutique pour y aller avec elles ?
Non, malheureusement, non.
Et donc, vous êtes norvégienne ?
Moitié norvégienne par ma mère. Et après, je suis niçoise par mon côté de mon papa.
Est-ce qu'il y a une grande communauté norvégienne scandinave ici à Nice ?
Oui, ils sont à peu près 10 000. J'ai eu quand même quelques clients aujourd'hui qui sont venus m'acheter pas mal de harengs et de saumon mariné. Ils allaient regarder le match pour fêter un petit peu ça.
Justement, vous parlez de harengs ou de saumon. Là, je vois du hareng. Est-ce que, par exemple, ça, c'est bon à manger avant de jouer au foot ? Est-ce que les Norvégiennes peuvent manger ça avant de faire leur match ?
Non, je pense pas. Ça sera plutôt après.
Et s'il y a une victoire de la Norvège, est-ce que vous irez fêter ça avec votre maman et ses copines avec
J'attends qu'elles avancent un petit peu plus. Hein.
C'est bien, vous êtes humble.
Ah ben oui, on attend que ça avance peut-être plus en quart de finale. Oui, plutôt, voilà, on attend un petit peu plus.
Et votre maman et ses copines retraitées n'ont pas prévu une fête
Ah non, pas tout de suite. Ça, c'est vers la suite. Hein.
Et comment on dit au revoir en norvégien?
Heido. Heido.
Heido. Eh bien, Heido à tous. Et à demain.
Heido, Olivia, à demain.